17h26, Pierre-Yves, GM, tu nous disais justement la fermeture de l'usine d'Oshawa fait couler quand même pas mal d'encre. Au Canada anglais, ça a été le sujet des deux, trois dernières semaines.
Oui, Doug Ford dit au salon de l'auto de Détroit, excuse-moi, on va en profiter pour parler aux dirigeants de General Motors. Mais si on se met dans la peau des dirigeants de General Motors, on pense à nos actionnaires, évidemment. Et quand on regarde l'action... L'action depuis 10 ans de General Motors vivote. Mais quand on dit vivoter, on était près de 40$, on a descendu à 20, on a remonté à 40, on a vivoté sous les 40 jusqu'en 2017-2018, et là on est à 38$ environ. Donc tu vois, c'est vraiment une action qui donne pas de valeur à l'actionnaire, au régime de retraite, aux employés. Et si on regarde la performance depuis le début de l'année, oui, on a un 13% depuis le 1er janvier. Mais selon les rendements, faut couper quelque part. Donc, la question, c'est, est-ce que les modèles qui sont présentement sur la route ou qui sont offerts permettent à GM de dire aux propriétaires, « Hey, vous allez revenir avec GM au bout de 3-4 ans, puis racheter un nouveau véhicule, reprendre nos services de changement d'huile, de mécanique pour maintenir votre garantie. Vous allez recommencer perpétuellement avec nous. » Parce que c'est ça la recette maintenant. On finit un 5 ans, un 6 ans ou un 7 ans de paiement. Et le concessionnaire, juste avant qu'on finisse, nous envoie une lettre nous disant qu'on se qualifie pour les mêmes paiements, pour avoir une autre voiture. Comme ça, on se réabonne. Et les concessionnaires ont gagné un combat, c'est que les petits garages doivent acheter maintenant des ordinateurs pour les compagnies, tu comprends? Et ça devient de plus en plus compliqué à réparer. On garantit dans la période de garantie si c'est réparé chez le concessionnaire. Donc, on veut ultimement aller chercher toute la clientèle, renouveler constamment les voitures. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tes modèles que tu vendais à Oshawa ou que tu fabriquais à Oshawa étaient intéressants sur le marché? C'est ce qu'on réalise, c'est plus ou moins, et c'est pour ça qu'il y a une disparition. Et quand on regarde la marge de GM dans les états financiers, on voit que tu as une croissance, mais la marge nette n'est pas si élevée que ça. On parle de 7% de marge nette, donc pour maintenir la cadence, il faut absolument révolutionner GM, et c'est ce qu'on tente de faire.
On a eu les chiffres pour 2018 dans l'immobilier au Québec.
Oui, 86 557 ventes en 2018. On dit que c'est un record, 5 % de plus que l'année dernière. Bon, évidemment, il y a de plus en plus de Québécois. On a de plus en plus de maisons. Donc, statistiquement, un nombre, tu sais, ça veut rien dire. Ce qui est intéressant, ce serait la vente par capita. Mais quand même, on nous dit que les copropriétés sont en augmentation de 18 % et les unifamiliales et les plex, c'est de 3 %. Ce que ça nous dit, c'est que le mode de vie urbain augmente, que les gens, pour avoir accès à de l'immobilier, sont obligés de se retourner vers de l'immobilier sans terrain ou avec moins de terrain. On est obligé de s'acheter un condo qui permet, dans le fond, sur un même terrain, d'avoir plusieurs familles et donc de réduire la portion du terrain qui nous appartient. Et c'est peut-être juste ça la logique du condo. Ça donne accès. Mais faut pas comparer un 1000 pieds carrés de maison à un 1000 pieds carrés de condo, puisqu'on a beaucoup moins de valeur dans le condo. Au niveau de la valeur terrienne, on possède une fraction du terrain. Et ça, souvent, on l'oublie. Et
c'est assujetti à l'état financier de la copropriété aussi, là.
Exactement. Puis ajoute à ça qu'on nous dit qu'il y a une diminution, évidemment, sur Centris de l'inventaire. Faire attention, Centris, c'est les courtiers immobiliers.
Ouais.
Mais comme il y a des sites comme Duproprio, VendeDirect.ca, PubliMaison et autres qui permettent aux vendeurs de vendre directement, ça crée que les données des courtiers éliminent évidemment tout ce qui est vendu à même le propriétaire. Et ajoute là-dedans qu'on est dans une condition de resserrement de crédit. On peut quand même négocier avec les meilleurs prix du marché, 2,95-50 variable. Mais un fixe 5 ans, c'est rendu 3,5. Il faut se qualifier pour un taux supérieur. Donc, c'est de moins en moins évident d'acheter. Donc, les plus jeunes ont moins d'accès au niveau de la capacité de payer pour une première maison. Mais il faut dire, par contre, qu'il y aura des boomers à la retraite. C'est l'effet qu'on veut voir. Quel sera le déplacement des boomers de leur maison aux maisons de retraite ou simplement à des condos ou des appartements, et quel sera l'impact sur la disponibilité du marché dans des régions?
Les Québécois qui sous-estiment, est-ce que tu penses qu'ils sous-estiment le montant total d'épargne nécessaire à la retraite?
C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque Royale qui fait un sondage et qui dit au Canada en moyenne, les gens disent que pour avoir une retraite confortable, ça prend 787 000 $.
Okay.
Tu sais combien au Québec?
Ça doit être
427. On est vraiment là, par rapport au reste du Canada, complètement dans un monde différent. On pense que ça prend moins. Peut-être parce qu'on pense vivre de façon plus frugale, ou peut-être que dans notre calcul, on ne tient pas compte peut-être du RRQ, de la sécurité de vieillesse, de la vente de la maison, de la vente du chalet. Les Québécois, pour l'instant, dans le sondage, répondent moins. Mais j'ai fait un calcul. Mettons qu'on écoute les Québécois puis qu'on a 472 000, puis qu'on réussit à placer notre argent à 4 % pendant 25 ans de retraite, ça nous donne par mois 2491$. Là, tu me dis, ouais, mais c'est pas si pire. Si tu prends un tout inclus là, dans une résidence, là, oui, mais faut pas oublier l'indexation. Ça, là, c'est pas indexé.
Mais non.
Fait que dans 25 ans, c'est quoi? Si on prend le chiffre moyen canadien, on se retrouve avec 4154 par mois. Donc, nous, on estime qu'à 2500$, on est confortable. Et les Canadiens, c'est à 4150. Mais attention, ça veut dire qu'on pense qu'on a besoin de 67 % plus de paiement mensuel au Canada qu'au Québec pour être bien. Mais là, il y a d'autres facteurs. La santé, l'inflation, les chutes en bourse, la capacité de générer 4 %. Si on tombe à 1 % au lieu de 4 % de rendement, c'est plus la même game. On perd plusieurs centaines de dollars par mois de capacité de paiement.
Alors, mais ça, si on Pierre-Yves, se trouve, ça peut-il... Je te soulève une option, là. Tu sais, les coûts d'établissement sont quand même... ou les coûts pour se loger sont pas mal moins élevés ici. Je regardais les chiffres de l'année passée, là, justement, pour le marché exemple de Vancouver. Je vais choisir le pire, là, au Canada. C'est quand même 1,2 million la valeur marchande d'une propriété médiane dans le marché de Vancouver. Donc, c'est sûr que la personne qui, elle, regarde, elle se dit, écoute, ma maison vaut 1,1. Si je veux la garder, ça me coûte 6 000 ou 7 000 de taxes par année. Il va falloir que j'aie pas mal de cash pour être capable de rester là ou de me louer un appartement qui coûte une fortune aussi.
Mais je comprends,
mais tu doper le tout.
Ça dope le tout, mais tu sais, en Ontario, t'as 872 000 estimés. Mais tu sais, en Ontario, oui, t'as le Grand Toronto, mais t'as aussi Cornwall.
Ouais, c'est vrai.
T'as aussi des petites villes. Donc, au Québec, t'as raison. Et là, t'apportes un autre point. Moi, ce que j'appelle l'arbitrage géographique. À la retraite, quand tu vis dans une métropole, tu peux vendre tous tes actifs et t'en aller dans une région un peu plus éloignée où pour le même prix, t'as beaucoup plus. Et c'est peut-être ça l'avantage des gens qui sont en ville. Vous payez cher pour vos maisons, ouais, le temps de votre vie active, et quand arrive la retraite, tu vends tout, tu fais un 100-150 000 de liquidités supplémentaires pour être racheté une maison ou plus petit ailleurs ou loué, et là tu te retrouves avec beaucoup de liquidités, être capable d'être riche dans un autre quartier, dans une autre ville, simplement parce que le coût de la vie est moins élevé, parce qu'il y a beaucoup moins de pression sur l'immobilier.
Je prends 30 secondes pour te conter une histoire qui m'a été racontée par quelqu'un qui avait mis en plan cette affaire-là, justement. Propriétaire d'un triplex ici sur l'île de Montréal, clair à eux, décide de vendre ça, quelque chose comme 600 ou 700 000 $, ce qui n'est pas impossible,
non,
et décide d'aller s'expatrier dans un petit village des cantons de l'Est. Ils achètent une propriété 90 000 $.
Ils avaient du bien, hein?
Ben écoute, avec ce qu'ils avaient réussi à mettre de côté, là, c'est la retraite qui les...
Ben, je vais donner un autre exemple. Il y a un policier de Montréal qui a vendu un triplex ou un quintuplex sur le plateau, vend ça, plus d'un million, fly vers le Mexique, et là-bas, ben reçoit sa pension canadienne, mais profite du gain en capital ici, et se retrouve là-bas à s'acheter une villa sur le bord de l'eau. Tu sais, il y a ça aussi, là,
ouais,
ce que j'appelle l'arbitrage international, tu sais, financier.
Merci beaucoup, on prend des
notes.
Salut,
au plaisir.
Il est 17h35.